Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Je vous retrouve donc ce soir pour la suite du roman de Yannick Hennel, Tiens ferme ta couronne. Entre chaque film, je sortais Saba. La plupart du temps, je me contentais de descendre avec lui dans le petit jardin où il s'ébrouait quelques minutes et pissait contre le tronc des platanes. Lorsqu'il chiait, j'avais pour désagréable contrainte de ramasser sa merde et de la jeter au vide ordure. Tot m'avait ainsi confié une réserve de gants en plastique que j'enfilais dès que Saba se mettait en position pour déféquer. C'était toujours un moment délicat, car je savais, et Tot lui-même me l'avait confirmé, qu'il est déconseillé de déranger un dalmatien qui chie. L'instant où le dalmatien chie est celui où il revient à lui-même, à son instinct royal, à l'évidence de son trône. Personne ne doit perturber une telle rêverie, au risque de rendre fou le dalmatien et de provoquer des dégâts irréparables pour lui et peut-être pour autrui. Précisément un soir, alors que j'avais interrompu un énième visionnage intense d'Apocalypse Now pour sortir Saba, et qu'il s'était approché de son endroit préféré, un coin humide en bordure des acacias, un coin où il parvenait à recréer le monde propice à sa détente, la concierge, Madame Figaud, était apparue furibarde, brandissant je ne sais quelle liasse de formulaires relatifs à des colis que je ne cessais de me faire livrer et que je ne venais jamais chercher dans sa loge. Non seulement elle perdait son temps avec des livreurs qui l'insultaient, mais en plus elle devait stocker mes montagnes de cartons dans le minuscule espace de sa loge, alors même que rien ne l'y obligeait. Pourquoi n'allais-je pas avec mon chien dans la rue, comme tout le monde ? Hurla Madame Figaud. La question, dans sa généralité, était légitime, mais je lui précisais que ce n'était pas mon chien et que je ne faisais qu'appliquer les directives de mon voisin Tot, qui savait, lui, ce qui est bon pour son chien, car de fait, il s'agissait de son chien et non pas du mien. Et par ailleurs, j'imaginais, pure spéculation de ma part, que sans doute le jardin de la résidence était un lieu plus engageant pour faire ses besoins que les caniveaux impersonnels et froids qu'on trouve dans les rues de Paris. Comme j'allumais une cigarette, Madame Figaud sauta sur l'occasion pour stigmatiser ma tabagie. Non seulement je semais, défiante ça et là sur les plates-bandes de ce jardin dont elle avait la responsabilité, mais j'y écrasais mes mégots. Cette nouvelle accusation était plus injuste encore que la précédente, car jamais je n'abandonnais aucun mégot, ni même ne les dissimulais en les enfouissant sous la terre comme font certains, dis-je. Mais les glissait systématiquement dans le sachet où il rejoignait les excréments de Saba. J'étais en règle, dis-je à Madame Figaud, et peut-être même irréprochable. Notre dialogue atteignait son intensité maximale, et comme je le redoutais, cette intensité dérangea Saba. Il surgit de son fourré et bondit sur Madame Figaud qui s'écroula de tout son long dans un buisson d'acanthe et nous maudit, moi et mon chien stupide. Après la promenade de l'après-midi, avant que je ne replonge dans l'enfer passionnant d'Apocalypse Now, où je décelais une catabase qui, loin de décrire l'embourrement américain dans la guerre du Vietnam, concernait notre situation sacrificielle à tous. Nous remontions dans l'appartement de Tot et je tenais compagnie encore quelques instants à Saba, qui supportait mal la solitude. Affalé dans le fauteuil club du salon, jambes allongées sur la table basse, tandis que Saba, fou de joie, m'apportait une peluche ou quelques poupées Barbie déchiquetées, j'observais par la fenêtre le passage de la lumière à travers le feuillage des grands platanes. Très vite, Saba se couchait de tout son long sur moi, les pattes avant enroulées autour de mes épaules, la gueule calée contre mon cou, son gros ventre de dalmatien en surpoids confortablement lové contre mon abdomen et ses pattes arrière étendues le long de mes jambes. Il poussa de longs soupirs d'aise et fermait les yeux. Rassuré, comme si nous allions vivre ainsi ensemble pendant des semaines, des mois, des années, une vie entière. J'aime observer les platanes du jardin. Chez Tot, les différences avec le point de vue que j'avais depuis mon lit étaient infimes, mais chaque nuance d'un reflet modifie la couleur des arbres. Et il suffisait d'un peu de vent, d'un nuage, d'une légère fraîcheur, pour que le dessin des branches et le volume des frondaisons semblent neufs. J'aimerais m'introduire dans chaque appartement de la résidence pour suivre la lumière au fil de la journée et voir toutes les métamorphoses. Il y a un moment vers 18h, lorsque le ciel a été clair toute la journée et que l'après-midi est resté immobile, où les couleurs s'enflamment. D'abord, elles vacillent, incertaines, et l'herbe, les buissons d'acacia, les petits massifs de laurier vous semblent roux, presque noirs. Cette rousseur monte, et alors les platanes et les marronniers de la cour intérieure se gorgent d'une sève qui se jette sur la baie vitrée, sur le plafond et les murs de l'appartement. Le monde prend une couleur de sable chaud. Puis des éclats orange et jaune clignotent au coin des vitres comme des zestes d'agrumes. Les reflets tremblent un peu, pliés dans la nacre mauve et rouge bleutée. Il n'y a plus qu'un immense buisson de flammes. Et la solitude de ce buisson m'enivre. Les étoiles ne meurent pas, elles déchirent la gorge des humains qui admirent le soleil. Il faudrait enfoncer un couteau dans la matière des journées, trancher le gras, y découper ce qui seul vous éblouit. A-t-on besoin d'autre chose que de vertige ? Tot. Les séjours à l'étranger de Tot n'excédaient pas d'habitude 8 à 10 jours, mais voici que je n'avais plus de nouvelles depuis bientôt 3 semaines. Il avait pris l'avion le 1er septembre pour une tournée des casinos du nord de l'Amérique, et nous étions le 23. Comme Saba souffrait de solitude et que mes visites ne suffisaient plus à calmer ses gémissements, j'avais fini par le garder chez moi. J'aimais ce chien. Mais sans doute prenais-je trop au sérieux mon rôle. J'avais l'impression de passer mes journées à le nourrir, à l'accompagner dans le petit jardin pour qu'il fasse ses besoins, à jouer à la balle avec lui, comme s'il s'agissait d'un enfant. Je n'arrivais plus à penser tranquillement. Ma solitude elle-même tombait en morceaux. Il fallait absolument que Tot revienne. Même Anouk, sa petite amie, ignorait la date de son retour. Et comme il n'avait ni portable ni mail, nous n'avions aucun moyen de le joindre. D'ailleurs, même lorsqu'il était chez lui, il demeurait injoignable. Sa passion pour le jeu l'amenait à fréquenter des gens interlopes, et sans doute était-il empêtré dans de louches histoires d'argent. Ainsi, il lui arrivait de se cloîtrer pendant des semaines et de vivre comme un clandestin, volet fermé, de « faire le mort », comme il disait. Dans ces cas-là, c'était moi encore et toujours moi qui sortais le chien. Je n'ai jamais compris sur quoi portait vraiment notre accord. Sans doute ai-je de la répugnance à y penser. Échanger un chien contre un écran de télévision me paraissait extravagant. Et d'ailleurs, avais-je demandé quelque chose ? Rien. Je n'avais rien demandé. Vous vivez seul et voilà qu'on vous envahit. D'abord c'est un chien, puis le reste s'ensuit comme une dégringolade. La première fois que j'avais vu Tot, c'était sur le palier. Je sortais de l'ascenseur, un type m'observait dans l'embrasure. Il était long et maigre, pieds nus, vêtu d'un kimono en soie rouge orné de broderies où des dragons crachaient du feu. Ce feu, j'ai compris immédiatement qu'il s'agissait du sien. Il avait l'air d'un homme qu'on aurait retiré du bûcher avant que les flammes ne rôtissent intégralement son corps. Et puis, il y avait quelque chose dans son allure, du mercenaire et du peau rouge, le visage émacié, l'œil brusque, les cheveux ras à la manière des anciens militaires. J'appris plus tard qu'il s'était engagé dans la Légion étrangère et avait séjourné 5 ans au camp de Djibouti, puis à Abu Dhabi. J'appris qu'il avait combattu sur divers fronts lors d'opérations au Tchad et au Mali, ainsi qu'au Liban. J'appris par Anouk, car lui ne racontait rien, se taisait la plupart du temps et n'ouvrait la bouche que pour donner des ordres. J'appris donc par Anouk que pendant une séance de plongée sous-marine au large de Djibouti, alors qu'il s'était blessé la jambe sur un banc de corail, un requin, attiré par le sang, avait foncé sur lui. Le corps de Tot était, paraît-il, entièrement couturé de cicatrices qui témoignaient de cet affreux combat. Mais le requin, lui, était mort. Tot l'avait déchiqueté. Il me demanda à voix basse, une voix lugubre sourde, si j'avais vu son chien. J'avais croisé en effet dans le petit jardin de la cour intérieure un dalmatien qui urinait contre les platanes. « C'est lui, avait-il dit. Est-ce que je pensais qu'il allait remonter ?» J'ai haussé les épaules. Savoir ce que pense un chien n'était pas vraiment dans mes cordes. Quelques minutes plus tard, on a frappé à la porte. C'était encore lui, pieds nus, avec son kimono et ses yeux déments. Il avait un abcès dentaire, il lui fallait se rendre immédiatement chez le dentiste, en bas, place Édith Piaf. Ses dents saignaient et il n'avait qu'une envie, les arracher une à une avec une pince. D'ailleurs, je m'en souviens très bien, à ce moment-là, il avait glissé sa main dans la poche de son kimono et brandi une petite pince en métal qu'il avait aussitôt fourrée dans sa bouche. J'ai pensé qu'il allait s'arracher une dent juste là devant moi. J'imaginais déjà le chicot sanguinolent. Et puis voilà, il m'a demandé si je pouvais m'occuper de son chien en son absence.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Retour au roman de Yannick Hennel, Tiens ferme ta couronne. La plupart du temps, Tot était à cran. L'agressivité semblait son élément naturel. Il était toujours sur le point de se battre. Avait-il tué quelqu'un ? Il vivait du moins dans la terreur de le faire. Cette terreur est ambiguë. Elle vous appelle, comme la soif. Sans doute est-il impossible d'échapper à un tel désir, car il ne cesse de grandir et bientôt se substitue au moindre souffle. Une fois l'idée du crime entrée en vous, non seulement le repos s'éloigne, mais votre mort se précise. Vous vivez avec votre mort. Pour la plupart des gens, la mort n'existe pas. Ils perdent des amis, ils perdent un parent, ils en souffrent, mais leur propre suppression demeure lointaine. Pour rien au monde, ils ne voudraient visiter leur propre fosse. Ils ferment les yeux quand le couteau les découpe tranquillement. Tot, au contraire, appartenait au sacrifice. Les stupeurs qui frappaient un être aussi vigoureux et le mettaient au lit toutes les journées entières relevaient de cette emprise. Le calme de Tot venait du fait qu'il était brûlé des pieds à la tête. Une telle brûlure le protégeait de cette ruine à laquelle la plupart des créatures succombent parce qu'elles craignent pour ce qu'elles ont bâti. C'était sa force. Tot ne cherchait en aucune façon à être reconnu. Il existait seul, sans rien qui pût l'enchaîner, sinon ses fièvres, dont la ténacité semblait ouvrir un cauchemar. Qu'il fût vide ou profond était sans importance. Tot était avant tout dangereux. Ce danger donnait une consistance humide à sa vie. Et sans doute ne concevait-il pas d'autre vérité que celle de ses vices. C'est leur immensité, leur rigueur, qui le faisait respirer avec autant de précision. Entre ses tournois de poker, Tot se consacrait à la chasse. Je l'ai même accompagné une fois dans une de ses virées nocturnes en forêt. Il n'est pas encore temps de raconter cet épisode. Son appartement était le même que le mien, même baie vitrée, même couloir obscur, aucune décoration. Une atmosphère de planque avec des meubles récupérés et du matériel informatique entassé dans les coins. Dans la chambre-salon, là où j'avais établi le téléviseur, il avait installé une armurerie. Elle était composée de toutes sortes d'armes blanches dont les lames brillent dans ma tête, tandis que j'écris ces phrases. En particulier une hache qu'il utilisa le soir où il m'invita à dîner. Et puis il y avait trois carabines. Un après-midi, que nous buvions des bières chez lui, il sortit une clé de sa poche, ouvrit la vitrine et s'empara de celle du milieu, mit en joue, visa son chien, releva brusquement l'arme et me la tendit. Est-ce lui qui m'a initié à la chasse? Je ne crois pas. Une telle passion lorsqu'elle se déclare à rencontrer son objet depuis longtemps. Mais si pour moi la chasse a toujours lieu dans ma tête, chez Tot, elle relevait d'un acte réel. Il fallait qu'il poursuive une silhouette jusqu'à la mort. Ses gestes rapides, précis, étaient ceux d'un adepte, passer en une seconde de la froideur à la fièvre, puis inversement. Tout cela implique une discipline qui fait défaut aux cœurs embrouillés. La carabine qu'il avait mise entre mes mains était allemande, une Hennel, selon lui la meilleure pour les traqueurs. Les fusils d'assaut de la firme Hennel, m'expliqua-t-il, étaient ceux qu'utilisait la Wehrmacht. Et depuis la Seconde Guerre mondiale, l'atelier Hennel s'était spécialisé dans les armes sur mesure. Celle-ci, une arme de battue semi-automatique à la crosse droite, avait été conçue à sa demande pour poursuivre des proies à travers une forêt et tirer en mouvement. car dans la chasse, disait Tot, ce qu'il y a de meilleur, c'est la traque. Quand arrive le moment de viser, de tirer, quand arrive l'instant de tuer, la chasse est déjà finie. Chasser, disait Tot, ne consiste pas à ajuster le croisillon d'une lunette, mais à poursuivre une proie jusqu'à ce que plus rien ne vous sépare d'elle. Il faut pour entrer véritablement dans la chasse que votre fatigue s'égale à celle de l'animal que vous traquez. Il faut que les deux souffles s'équilibrent et en un sens ne fassent plus qu'un. Il n'est pas vrai que dans la chasse, le chasseur et la proie se substituent l'un à l'autre, me dit-il. Mais il arrive qu'ils ne fassent qu'un. Une véritable chasse, une chasse réussie, implique que vous ayez vaincu l'animal avant même de tirer, c'est-à-dire que vous vous soyez confronté à lui toute une nuit et qu'à force de le poursuivre à travers la forêt, vous vous soyez vidé de ce qui vous sépare de lui. Le véritable chasseur, me dit-il, est celui qui continue à respirer lorsque sa proie est hors d'haleine. Le véritable chasseur épuise sa proie, laquelle, renonçant à se cacher, finit par s'écrouler à ses pieds. Alors le regard de l'animal qui se retourne sur vous consacre l'animal qui était en vous. Le halètement qui parcourt vos deux corps abolit la distance. Dans la chasse, me dit Tot, la pitié n'existe pas. Celui qui a épuisé l'autre lui accorde d'en finir. C'est alors, me dit-il, qu'on retrouve ses mâchoires. J'aime tuer, dit Tot. Et les chasseurs qui taisent cette joie mentent. Il faut que j'avoue une chose qui sans doute n'est pas étrangère à mes problèmes avec Tot. Un soir, Anouk avait frappé à ma porte. Était-ce en juillet ou en août? Elle cherchait Tot. Je lui dis qu'il était parti quelques jours. C'était faux. Tot était là. Il faisait le mort. Il ne voulait voir personne, pas même Anouk. Surtout pas elle, m'avait-il dit. Je ne tenais pas spécialement à protéger Tot, mais l'emprise qu'il avait sur Anouk me dégoûtait. Elle perdait de jour en jour son charme. Elle était dans la main de Tot. Il lui suffirait un jour de fermer son poing pour l'écraser. Elle s'étonna qu'il ne l'ait pas prévenu. Sa tristesse était celle d'une petite fille. Je l'invitais à entrer. Anouk avait une vingtaine d'années, je dirais 24 ans. Je l'avais rencontrée deux ou trois fois dans le quartier avec Tot. Elle commençait une thèse de philosophie sur Wittgenstein, sur un petit écrit de Wittgenstein consacré au rameau d'or, et plus généralement sur l'articulation entre la logique et la mystique. Elle enseignait la philosophie dans un lycée de banlieue, à Deuil-la-Barre. C'était sa première année, elle était encore stagiaire, et déjà l'enseignement lui semblait une folie. Elle était brillante, et sa passion pour un homme aussi dur que Tot relevait à mes yeux du gâchis. Je l'imaginais ramper devant ce hibou mutique. Cette vision m'était insupportable. Je venais de commencer un énième visionnage de la Porte du Paradis de Cimino et lui proposais de le voir avec moi. C'était un film sur la fondation de l'Amérique par le crime, lui dis-je, un film qui racontait comment les riches éliminent les pauvres, comment vers la fin du XIXe siècle, dans un comté du Wyoming, des propriétaires terriens soutenus par les autorités gouvernementales avaient dressé une liste noire d'immigrés à abattre et payer des mercenaires pour exécuter ce travail. J'aimais particulièrement ce film parce que la lutte des classes y était racontée, comme dans Flaubert, à travers une scintillation de cérémonies. Il y avait le sexe, la danse et la mort. Et plus encore, comme elle allait s'en apercevoir, il y avait l'immensité des ciels d'azur qui écrasaient les personnages. Il y avait les montagnes rocheuses, celles du Colorado et du Montana, avec leurs cimes enneigées où étincelait parmi des hardes de serre le daim blanc de la vérité. Il y avait des prairies sans fin, traversées par des convois de migrants qui s'enfonçaient dans la boue. Il y avait cette lumière dorée qui donne à la tragédie sa couleur d'espérance. Lorsqu'elle découvrit la pièce où je vivais, elle eut un mouvement de recul. La nuit, ma chambre ressemble à un tombeau. « Celui du pharaon dans sa pyramide, » dit-elle en souriant. Elle se planta devant les papyrus et caressa du bout des doigts la gorge de l'hirondelle. Ses gestes étaient si délicats qu'il semblait invisible. Il y avait en elle une réserve de silence qui me plut. J'avais tellement l'habitude d'être seul que parler me semblait une anomalie. J'étais déjà un peu ivre, je lui versais un shoot de vodka. Elle ôta son blouson d'aviateur, releva ses cheveux en un chignon qui dévoila une nuque constellée de grains de beauté, s'assit sur le divan-lit, but la vodka et me demanda aussitôt une autre. La pluie frappait doucement contre la baie vitrée. Anouk semblait aussi déterminée qu'absente. Avec ce regard à la fois buté et vide qu'ont parfois les jeunes femmes. Ses yeux gris, son visage poupin, lui donnaient l'air d'un écureuil. Ses boucles d'oreilles avaient la forme d'une larme. Certains soirs, le velours glisse entre les voix, comme si les étoiles s'allumaient dans nos gorges. Elle s'allongea sur le lit à mes côtés, elle attendrait ici le retour de Toth. On l'entendrait forcément tourner la clé dans la serrure. Je lui tendis la bouteille de vodka qu'elle but au goulot. Nous commençâmes à regarder la porte du paradis en fumant des joints. Voilà, nous avons terminé pour ce soir, donc... La suite de ce roman de Yannick Hennel, Tiens ferme ta couronne, que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.